Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 43, Pakhant et Mogok, terre de jade et de rubis. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast des voyages d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je me fais un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie à nouveau de notre invité star Thierry Robinet pour continuer à parler de la Birmanie. Alors le dernier épisode, on a pu découvrir la ville de Mandalay et les anciennes capitales royales. Jusqu'à maintenant, on a découvert trois hauts lieux de ce pays magnifique. Bagan, le lac Inlay et donc la région de Mandalay. Et aujourd'hui, on va sortir un peu plus en dehors des sentiers battus. C'est vrai que ces trois lieux que je viens de citer sont les trois incontournables d'un voyage en Birmanie, et il y en a d'autres, on y reviendra. Mais là, aujourd'hui, on a voulu s'écarter vraiment de ces routes et aller découvrir les mines de jade et de rubis de Pakhant et Mogok. Des curiosités vraiment extraordinaires de la Birmanie. Vous savez que la Birmanie est un haut lieu pour les pierres précieuses. Et Thierry va pouvoir nous faire profiter des aventures passées qu'il a eues en ces terres et vous raconter comment peut-être, vous aussi, vous pourrez aller les découvrir. Bienvenue dans cette autre Birmanie. Bienvenue au paradis des pierres précieuses. Eh bien, bonjour Thierry.
Bonjour Romain.
Eh bien, écoute, c'est comme à chaque fois un immense plaisir de te retrouver et de passer du temps avec toi pour parler un peu de tes aventures passées, pour découvrir des nouvelles régions de cette fantastique Asie. Quatrième épisode déjà aujourd'hui sur la Birmanie. La dernière fois, on était dans la région de Mandalay, au centre de la Birmanie, dans le territoire Bamar, comme on dit. Et aujourd'hui, on va aller plus au nord. On va découvrir d'autres trésors que ce pays recèle. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu beaucoup les trésors, on va dire, les créations humaines, hein, les temples, tout le patrimoine du peuple birman. Mais aujourd'hui, on va découvrir un autre type de trésor, les minerais, les pierres précieuses. Alors là, c'est vraiment du trésor 100% naturel. Et on sait à quel point la Birmanie est l'endroit dans le monde où il y a le plus de pierres précieuses. C'est vraiment un territoire béni des dieux à ce niveau-là. Et on va aller découvrir les régions de Pakhant et Mogok, qui sont réputées mondialement pour leurs mines de jade et de rubis. Pour commencer, voilà, je sais que tu aimes beaucoup les temples, tu aimes beaucoup la culture birmane, mais tu as aussi un faible pour les minerais. Alors parle-nous de cette passion déjà, et puis comment toi, au tout début, tu as découvert ces territoires.
Voilà, bah écoute, je te remercie encore de me redonner la parole parce que c'est assez extraordinaire d'avoir un cousin comme toi. C'est fabuleux. J'aime la Birmanie aussi par rapport à ses minerais parce que j'ai toujours vu, depuis que je vais en Birmanie depuis 1978, j'ai toujours vu les femmes porter des rivières de diamants, des rivières de rubis, des rivières de saphir sur de l'or. Et ça, à chaque fois, c'est quelque chose qui marque. Donc, quand en 1998, donc c'est pas si vieux que ça, j'ai enfin pu partir sur les chemins de Pakhant qui se trouvent en territoire Kachin, donc au nord birman. Quand les chemins de Pakhant se sont ouverts au compte-gouttes, on va dire, moi j'ai foncé dans la brèche, comme on dit, quoi. Donc j'ai réussi à avoir une autorisation en bonne et due forme de la Miawadi Division, c'est-à-dire l'organe, on va dire, touristique du parti militaire. Parce que la Birmanie, bon, je pense que ça pourrait être l'objet d'une autre émission, justement, pour parler un petit peu de ce que la Birmanie a été politiquement parlant depuis l'ère de Aung San, donc qui était le père d'Aung San Suu Kyi, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, grâce à cette autorisation qui m'avait été gracieusement offerte, et j'étais un des rares à obtenir ce droit-là, j'ai pu aller donc à Pakhant. C'est la plus grande mine de jade, faut-il le répéter, connue en Asie du Sud-Est. J'étais déjà passé par Mykina, qui est la capitale du territoire Kachin, et de là, donc, j'ai réussi à avoir une voiture en direction de Mogong. Mogong, c'est peut-être la plus grande ville en dehors de Mykina, qui est finalement la porte ouverte sur le territoire du Nagaland, et notamment à peu près à mi-chemin, donc, des mines de jade. Alors, on part pas comme ça sur les territoires birmans sans avoir une armada de militaires accrochée à la voiture. Donc ce jour-là, je me souviens, j'avais un gars avec un AK-47, un autre qui avait c'était un Uzi, donc des fusils mitrailleurs israéliens. En plus, en cours de route, on a repris encore un militaire, donc ça fait que... Et j'avais, moi, mon guide local qui m'accompagnait depuis Rangoon. Donc, c'était impressionnant sur la route. Donc, j'ai pris cette route qui est une route extraordinaire qui s'appelle la Ledo Road, la route de Ledo, qui a été construite surtout par les prisonniers britanniques pendant l'occupation japonaise de 42 à 45 en Birmanie. Et cette Ledo Road, bon, pour les anciens combattants qui ont combattu en Asie, ils peuvent tous le savoir, c'est une route où les Britanniques sont morts par dizaines de milliers de malaria, de malnutrition, de coups reçus par les militaires. Donc c'est une voie de communication en fait qui n'a pas changé. Pas de goudron, à part les 15 premiers kilomètres, et après de la terre, de la boue. Et sur la route qui traverse la jungle, des éléphants sauvages, dont notamment, je me souviens, on est arrivé en plein virage, on se retrouve devant un troupeau d'éléphants qui c'est dangereux, parce que éléphants en colère, éléphants qui peut charger, quoi. Et puis s'ils chargeaient notre petite voiture, notre petite Toyota, on n'aurait pas fait le poids. Donc on s'est arrêté, il a fallu qu'on attende, je me souviens, une demi-heure, avant que les éléphants veuillent bien les manger d'autre côté de la route, dans la forêt. La boue, les ornières, des éléphants, au détour d'un virage, donc, pour arriver après 14 heures de route, en gros, dans le territoire des mines de jade. Alors on est arrivé, la nuit était déjà là. Moi j'étais bluffé par les prouesses du chauffeur avec sa Toyota, parce que il arrivait à passer au-dessus des trous d'une manière extraordinaire. Et quand on a vu de loin les lumières de la cité de jade, moi j'étais particulièrement content, parce que je sais que je suis une des rares personnes à aller dans le territoire de Pakhant, dans les mines de jade de Pakhant. Personne n'y va. Le tourisme est arrivé au compte-gouttes, par-ci par-là, à envoyer un ou deux groupes, mais autrement c'est interdit. Il y a juste ceux qui sont des gens qui font le commerce international. Bon, les Chinois, eux, ils ont toutes les velléités d'y aller sans problème, puisque la mine est gérée un petit peu par les Chinois. Mais autrement, en ce qui concerne les Européens, bon, ceux qui ont pignon sur rue pour travailler avec Christie's ou avec les grands joailliers du monde, que ce soit à Paris ou à New York, eux peut-être ils ont le droit d'y aller.
Ouais, est-ce que tu peux t'arrêter deux secondes sur le contexte de l'époque, puisque maintenant la Birmanie est un pays qui s'ouvre énormément aux touristes étrangers, mais à l'époque comment t'as fait pour aller là-bas ?
Eh bien oui, c'est une région très protégée. Comme je l'ai dit, j'avais eu une autorisation de la Miawadi Division. Pourquoi ? Parce que au départ, je suis agent de voyage aussi. Donc, et comme je me suis intéressé très tôt à la Birmanie et que je suis curieux, parce que si j'avais pas été curieux, je n'aurais jamais eu ces autorisations. Je n'aurais jamais eu les autorisations aussi de tourner pour Ushuaïa avec Nicolas Hulot en Birmanie, même à Pagan, même à Mandalay et tout. J'étais très curieux et je voulais le faire. J'ai travaillé avec des gens, une agence qui s'appelait Golden Express, monsieur Tin Nong, qui est moitié chinois, moitié birman. Très certainement que ça a son importance, parce que monsieur Tin Nong avait, avec monsieur Chen Sen, son assistant, ils avaient une concession dans les mines de rubis de Mogok. On va y revenir après, puisque là, tout de suite, on est sur Pakhant, après on va parler à Mogok. Et donc, grâce à ça, et de ses rapports avec certains militaires du gouvernement, il est certain que moi j'ai pu avoir des autorisations que d'autres n'ont pas. C'était clair. Et moi je sais que monsieur Tin Nong, il a vu que j'avais envie de voir, il a vu que j'étais un gars sérieux, il a vu que j'étais pas venu ici pour après aller raconter dans les journaux de la politique birmane, de la façon dont elle était menée. Donc c'était pas mon même si je m'y intéressais beaucoup, c'était pas pour ça que j'étais là en Birmanie. Moi je voulais voir les mines. Donc je l'ai eu cette autorisation. Et à partir de ce moment-là, bon, on m'a laissé, j'étais entouré d'une batterie de militaires et de gars qui me surveillaient, bien sûr, mais j'ai quand même eu ces autorisations. Donc il n'y a pas grand monde qui a ça, quoi. Voilà. À l'heure actuelle, en 2016, on ne peut pas aller à Pakhant. Les mines sont fermées. Ça fait déjà maintenant, je vous l'assure, ça fait 3 ans que les mines sont fermées. En plus, il y a des gros problèmes de bagarre, on va dire, entre les gens des concessions avec le gouvernement. Il y a des gens qui disent aussi que c'est leur terrain, donc il faut pas toucher, alors que quand on va dans une mine, vous pouvez bien imaginer, il y a des trous partout, les falaises sont découpées. Donc il y a des gens qui sont lésés dans l'histoire, parce que ce territoire, il appartient aussi à quelqu'un. Donc il y a des gros problèmes. On est en plus vers les territoires Naga, donc qui est un petit peu aussi incertain jusqu'à nos jours. Donc c'est pas simple. Le climat aussi actuel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements climatiques dus en grande partie dans ces régions-là, la déforestation aussi. C'est qu'il y a eu 2 ou 3 catastrophes ces 2 dernières années où il y a eu des centaines de morts. Donc des falaises qui se sont écroulées avec les ouvriers dessous. Donc la mine est fermée. Donc je peux vous dire que rares sont les personnes qui sont allées à Pacan jusqu'à nos jours. Donc dès qu'on arrive dans les faubourgs, voilà, de nuit, vous imaginez, arriver avec une petite Toyota pleine de militaires et tout, vous arrivez de nuit, vous regardez les faubourgs, il y a plein de petites lumières. Alors, c'est pas les grandes lumières comme une ville, non, les petites lumières partout, et ça grouillait dans tous les sens. Moi, ma première impression, vue de nuit, en plus, ça ressemblait à un bidonville. Il y avait des tôles, des bâches, des contreplaqués, tout ça. Mais il y avait un hôtel qui était sympa, donc moi, j'étais obligé d'aller dans cet hôtel-là, parce qu'on montre pas aux étrangers, on va pas les mettre dans un bouclard, comme je dis, de troisième zone. Donc, il m'avait mis au Jed City Hotel. Donc déjà, c'était sympa comme nom. Et il était tenu par un Chinois. Parce que en Birmanie, finalement, au niveau des mines, comme on est déjà dans le nord, qu'on n'est pas loin de la Chine, on peut dire que Pacan est un mélange de populations hétéroclites. On voit des visages de tout. On voit des Nagas, on voit des gens qui viennent du Tibet, on voit des Birmans, on voit des Chinois, on voit des Thaïs, j'ai même vu des Indiens. Donc ça grouille dans tous les sens et on se dit, bon, c'est difficile de déchiffrer un petit peu la provenance de tous ces gens-là, mais c'est un melting pot qui est extraordinaire. Voilà. Et tous ces braves gens, avec le petit peuple qui va essayer de grappiller quelques miettes derrière, va s'agglutiner dans les petits mini bidonvilles des faubourgs, où il y a l'alcool et de la prostitution aussi. Donc voilà, c'est la première impression, la première image, c'est vrai, c'est de voir ce petit peuple qui grouillait dans tous les sens. Mais ce qui était intéressant aussi de voir, et ça sautait aux yeux, c'est de voir des Birmans avec des grosses motos Honda de calibre des 1100 ou des 1200 cm3 qui faisaient le trajet entre... Je les avais déjà vus quand j'ai passé à Mogong et à Mikina, il y avait plein de camions qui partaient et on me disait, tu vois, ceux-là, ils vont à Pacante. Alors c'était quelque chose un peu de mystérieux, de voir ces grosses motos, de voir ces gros camions qui partaient pour une destination inconnue. Et ces gars-là, avec ces grosses motos, on les appelle les Lopan. Je l'ai appris après, on m'a expliqué. Donc les Lopan, dans le jargon birman, finalement, ce sont ceux qui deal, qui traitent de l'achat et de la vente du jade. Donc, et après, tout ça part dans la société, après ça va tout à Mandalay, parce qu'à la sortie, c'est tout Mandalay qui gère tout ça. Et il faut dire une chose, c'est que le jade, il va partir sur la Chine, parce que il faut parler du jade impérial, le jade impérial qui est le jade numéro 1 au monde. Donc après, on va le retrouver sur les marchés de Hong Kong, on va le retrouver à Singapour notamment. Et les Chinois, bon, il faut savoir aussi que le jade porte chance. Donc c'est une pierre qui porte chance. Donc c'est l'opan. Sont en général tous de descendance chinoise et il est certain que ces gens-là sont un peu les maîtres des mines, ce sont ceux qui décident avec les représentants du gouvernement, avec les militaires. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de voir un marché du jade, c'était voir du jade de près. Donc j'étais allé à Mogong il y a quelques années auparavant, mais j'ai jamais pu aller à Pacan, parce que Mogong c'était plus facile au départ de Mikina, mais là j'étais vraiment dans la mine de jade, donc je voulais voir du jade moi, et où est-ce qu'on voulait bien me montrer. Donc je me suis, avec mon chauffeur, on s'est baladé, on a circulé dans la ville, on a circulé sur les extérieurs. Donc j'ai vu vraiment comment on découpait les parois d'une manière très savante, très droite sur des falaises qui faisaient jusqu'à 40 à 50 mètres de hauteur. Je pensais qu'avec les falaises, je verrais des falaises vertes, comme j'avais vu à l'époque en Iran en 1972 les carrières de Khorasan, où là vraiment quand on découpait la falaise, la turquoise bleue ressortait. Mais là, pas du tout. Donc, c'était toujours un système de falaises noires, marron. Donc, je me suis dit, mais il est où le jade ? Alors, bien sûr, je sais qu'il y avait des galeries, il y avait des mines dessous. Mais j'ai appris après que le jade, ce sont des rochers. Donc, quand on découpe les falaises, quand on va à l'intérieur, même sous la terre, quand on découvre un gros rocher, on se dit, tiens, on a touché le jackpot. Et donc c'est comme ça que quand on arrive à sortir les blocs de rochers, donc c'est un travail de dingue, je veux dire, parce que vraiment la mine de Pacan n'est pas une mine moderne, Il n'y a rien qui est moderne, à la différence de Mogok et son rubis, où ils sont quand même un peu mieux équipés. Pacan, c'est le travail de l'homme, c'est la main de l'homme qui fait tout. Et quand on a sorti ces énormes rochers de plusieurs tonnes, après, il y a des scies qui vont découper la roche. Et là, c'est ou le jackpot, où il y a peu de choses, où c'est pas bon, quoi. Donc ça représente un travail énorme pour soit gagner des millions de dollars, soit avoir zéro.
Et est-ce que les techniques ont changé aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans ?
Alors bon, je me suis pas rendu, je suis pas allé souvent à Pacante, je suis allé trois fois à Pacante. Mais bon, ça restait le début des années 2000, la dernière fois où j'y suis allé. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais il me semble que ça n'a pas changé. Il me semble que ça n'a pas changé. Si j'y retourne, je reviendrai te le dire, Romain, mais ça serait intéressant. Donc au départ, j'étais un peu déçu de voir que le jade, c'était pas ce que je pensais. Mais quand on a trouvé ce rocher, bon après on l'extrait, bon ils utilisaient quand même un peu la dynamite, et puis et voilà, on allait savoir. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote, c'est qu'en 1995, je me souviens, donc c'était avant, j'aurais pu déjà aller à Pacante. J'ai été invité par Monsieur Tin Nong, donc qui était le patron de l'agence Golden Express, avec qui je faisais du tourisme en Birmanie depuis plusieurs années. Invité par M. Tinnon, mais surtout invité par le SLORC. Qui était le SLORC ? Donc le SLORC, c'était le gouvernement birman. Donc c'est un mot qui est un peu dur, SLORC. Mais donc c'était le général Tan Shwe, qui était à l'époque le président, le général dictateur de la Birmanie. Donc j'ai été invité à me rendre à Pacante pour la découverte sur place d'un rocher de 120 tonnes de jade. Donc il savait. Donc il y avait une richesse fabuleuse à l'intérieur. Mais bon, moi déjà au départ, je n'en revenais pas d'être invité par le gouvernement birman pour aller voir ça. Donc j'habitais Bali, il fallait que je prenne un avion, que j'aille à Rangoon, de là je monte sur Mikina, et de Mikina, il fallait que j'aille à Pacante. En plus, il fallait que j'y aille la semaine prochaine. Donc c'était un honneur, certes, d'avoir été invité par le gouvernement birman, mais il m'était impossible pour moi d'y aller. Oh, j'ai pas été vraiment déçu, parce que... Dans ce genre de réunion, on est entouré par des personnalités peut-être du monde diplomatique, c'était possible, des civils birmans et militaires, donc de tous bords. Et je suis persuadé qu'il y aurait eu des discours un petit peu passionnés des militaires qui auraient fait l'apologie de tout ça. Et puis, quand on sait après que ce jade, il est vendu aux Chinois, et que c'est tous les Chinois en fait qui envoient tout en Chine, et qui en reste une infime partie aux Birmans, mais que cette infime partie va dans les poches des militaires, donc il reste rien pour le peuple. Et le peuple, il va ramasser les miettes derrière. Et c'est idem aussi à Mogok, où j'ai vu des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et bien des dizaines de milliers sur ces deux mines. On voit le petit peuple qui essaye de récupérer les miettes, mais qui récupère des choses. Et quand ils arrivent à le vendre, bah, ça leur paye 2-3 mois de repas, quoi, comme on peut dire. Quoi.
Et tout le monde peut y aller, ou enfin, j'imagine que les gens doivent être quand même très surveillés, non ?
Ah ben, le petit peuple des Birmans, il peut y aller, mais il n'a pas le droit de dépasser la concession. Lui, il travaille sur les bas du village. Il y a des rivières, parce que l'eau, de toute façon, est toujours importante pour l'extraction des minerais, pour nettoyer et tout. Donc, on peut voir le petit peuple qui s'acharne comme ça, avec un espèce de tamis pour récupérer des petites choses. Mais il trouve des rubis. Le jade, bon, c'était particulier, parce que c'est vraiment que du jade, là. Le jade impérial. Moi, j'ai réussi à acheter du jade dans le Jade City Hotel où j'étais. Et là, j'ai acheté du vrai jade impérial. Donc j'en ai ramené. C'est là que j'ai vu ce que c'était, la différence entre un jade sombre, on va dire, et un jade impérial qui est d'un verre. C'est comme si on comparait une émeraude avec une bouteille en verre, quoi. Voilà. Ma femme, maintenant, elle peut se targuer, Agung, elle peut se targuer d'avoir des boucles d'oreilles en jade impérial qui vient directement des carrières de Pacante. Et ça, c'est assez fabuleux.
Ouais, c'est pas trop mal ça. Alors voilà, ça c'est pour Pacante, les mines de jade, mais on va maintenant se diriger vers ton deuxième coup de cœur et le deuxième haut lieu des pierres précieuses en Birmanie, Mogok.
Pacante, c'est encore une fois le bout du monde, parce qu'on est déjà, après si on continue, on part dans le territoire Naga, mais je vous reparlerai des Nagas plus tard. Donc mon deuxième coup de cœur, Mogok. Mogok et les mines de rubis de Sandpigeon. Ça aussi, la Birmanie peut se targuer d'avoir un patrimoine extraordinaire au niveau des minerais, des gems, comme on dit en anglais. Et parce que bon, on trouve tout. On trouve des diamants, on trouve des rubis, on trouve du jade impérial, on trouve des beaux saphirs, on trouve des tourmalines, on trouve des grenats, on trouve tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, tout ce que la terre contient, sauf peut-être des émeraudes. Tout ce que la terre contient comme minerai de grande valeur, on le trouve en Birmanie. Donc c'est un pays quand même qui bénit des dieux à ce niveau-là.
Oui, et il n'y a vraiment pas d'équivalent ailleurs dans le monde, ou en Asie en tout cas.
Il n'y a pas vraiment d'équivalent, non. Sauf que en Asie du Sud-Est, on trouve de très beaux rubis aussi au Cambodge. D'ailleurs, quand les Khmers rouges faisaient la guerre, donc contre les Américains et tout ça, ils avaient les mines de Pailin, qui sont à la frontière de la Thaïlande et du Cambodge. Ils utilisaient ces mines pour acheter des armes. Donc, et les armes venaient d'où ? Elles venaient en gros de la Thaïlande. Et les Thaïlandais, ils se gavaient avec les rubis de Pailin. Bon, mais ça, c'est le business. Idem en Birmanie, quand la Birmanie avait des moments très difficiles, surtout dans les années 80, tous les rubis, les diamants, le jade passait, bon, quand c'était le nord, ça partait directement de Mykina sur la Chine. Là, c'était sur les jades impériales notamment. Mais le rubis, ça partait sur la Chine via la Chio. Et ça descendait aussi sur Tachilek. Et ça passait dans le triangle d'or. Ça allait donc à Chiang Mai et Bangkok. Mais ça, on va reparler de tous ces petits trafics. Je pense que ça pourrait être l'objet d'une très belle émission. Donc voilà, comme je viens de vous dire, il allait de soi que je continue mon périple des pierres précieuses en direction de Mogok, la ville reine du rubis sans de pigeon. Là encore, le plus pur et le plus recherché de la planète. Donc Monsieur Tin Nong, dans la foulée, hein, Monsieur Tin Nong de l'agence Golden Express, c'est un homme que j'aime bien, Monsieur Tin Nong, parce que grâce à lui, il y a des choses que j'ai fait en Birmanie que j'aurais jamais pu faire. C'est comme ça, de temps en temps, on rencontre une personne. Et comment j'ai rencontré cette personne ? C'est parce que je travaillais dans le tourisme. Alors au début, on était toujours avec la Tourisme Burma, qui était l'organe officiel du parti et qui est touristique. C'était toute une histoire, la Tourisme Burma. Je vous raconterai ça peut-être une autre fois. C'était des jolies nanas, en plus, qui nous accompagnaient tout le temps, mais qui étaient aux ordres. On n'avait pas le droit de partir 5 cm à gauche ou 5 cm à droite, sinon on se faisait cavaler après. Bon, c'était rigolo. Donc il y a un beau jour, eh bien, j'ai frappé à la porte de Golden Express. Une agence, et je crois que c'est le nom qui m'a attiré dans cette agence, parce qu'on peut voir, il y avait plein d'agences, il y avait Pagan Tour, Irrawaddy, Tour and Travel, ou je sais pas quoi, puis moi j'ai vu Golden Express, l'Express d'or, mais si tiens, ça sonne bien à mon oreille. Et je suis allé frapper à la porte, là, et je suis tombé sur un personnel, bon, très birman. Ils m'ont emmené devant M. Tin Nong, et là, j'ai vu cet homme qui était débonnaire, tranquille, mi-chinois, mi-birman, mais d'une gentillesse extraordinaire, et j'ai dit, tiens. Et quand je me suis mis à lui parler de mes projets, d'abord de tourisme au départ classique, et que tout doucement, j'ai posé des jalons sur d'autres endroits de Birmanie que j'avais envie de découvrir, parce que c'était complètement inconnu dans le tourisme, et même M. Tin Nong m'a vite aidé. Il a compris que j'étais un gars qui cherchait autre chose. Et lui avait envie aussi, il avait cette envie de faire découvrir une autre Birmanie. Donc voilà, les histoires, elles commencent toujours comme ça, hein. Il y a toujours quelque chose. Donc M. Tin Nong, dans la foulée, il m'a mis un billet d'avion pour Mandalay et il m'a fait voyager avec une voiture particulière sur Mogok. Et j'avais envie, moi, après d'aller à La Chio, mais La Chio, toute cette région qui est près de la Chine, c'est des régions qui sont très fermées, mais j'ai quand même réussi à y aller. Parce que toute cette route, au départ de Mandalay, en allant jusqu'à Mogok, et après qui continue sur La Chio, la Chine, je peux vous dire que des brigands sur le chemin, il y en a. Donc il est préférable de ne pas rouler la nuit. Parce qu'on se fait attaquer, ils mettent des rochers en travers de la route, ou des cordes, ou des arbres, et puis vous vous arrêtez, et puis d'un seul coup, il y a des gars qui font tomber un arbre 50 mètres derrière vous, donc vous pouvez plus sortir. Donc là, faut faire attention. En plus, plus on va vers l'est à partir de Mogok, on arrive dans le territoire des Wa. Et les Wa, bon, traditionnellement, à l'époque, c'était d'anciens coupeurs de tête, mais aujourd'hui, ils restent l'une des armées les plus, des guérilleros les plus féroces de Birmanie. Et souvent, certains mouvements indépendantistes aiment bien avoir des Wa avec eux, parce qu'eux, ils sont prêts à travailler pour tout le monde. L'important, c'est qu'ils récupèrent de l'argent, des armes, et ce sont en plus les plus gros trafiquants d'opium de Birmanie aujourd'hui. Donc Mogok n'est qu'à une demi-journée de route de Mandalay, c'est pas très loin, il faut 5 ou 6 heures de route. En plus, c'est une route de montagne et tout. On traverse des champs de culture, on traverse du maïs. Quand on arrive au sommet d'une colline, on voit la ville. Voilà, on voit la ville qui est disséminée comme ça dans une cuvette, avec des montagnes autour, donc avec de la tôle, de la tôle et de la tôle. Donc c'est une petite ville, on va dire campagnarde, très sympa. Et comme à Pakhand, j'étais allé au Jet City Hotel, ben là je suis allé au Mogok Hotel. Et bon, ça n'avait rien à voir. La ville n'avait rien à voir. C'était plus ville campagnarde, comme j'ai dit, mais le commerce était beaucoup plus développé. On sentait quand même qu'il y avait des marchés aux légumes, certains restaurants à l'atmosphère vraiment birmane, quoi. Monsieur Tin Nong avait vraiment bien fait les choses parce que dès le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec un Birman sur place qui était l'intendant d'une concession minière de Mogok, grand copain, on va dire, de Monsieur Tin Nong. Donc c'était pas vraiment la concession de Monsieur Tin Nong, mais c'était un copain proche. Donc là, il était déjà au courant de ma venue et j'ai eu toute liberté de visiter le territoire de la mine de Mogok avec un guide encore privé, bien sûr. Donc c'était pratique. Donc j'ai pu voir les installations, les immenses tamis où les camions déchargent le sable et les rochers qui ont été extraits, soit dans des trous, donc avec des personnes qui, avec une manivelle, retirent le minerai. Il y a un gars qui est au fond du trou par 50 mètres de profondeur. Alors je sais que depuis, de temps en temps, tiens, d'ailleurs c'est comme un peu au Sri Lanka. Même méthode qu'au Sri Lanka, quand ils vont chercher les saphirs, les trous font jusqu'à 50 à 80 mètres de profondeur. Il y a des gars qui sont au fond, mais les trous, ils font pas plus de 1,50 m de large. Et des fois, ça s'écroule. Le mec, il ressortira jamais, quoi. Donc, le temps qu'on redescende, qu'on enlève la terre et tout, ils sont ensevelis vivants. Sinon, il y a les méthodes aussi de... On taille dans la roche avec... j'ai entendu aussi des tirs de dynamite pour éclater les rochers. Et après, c'est un territoire de sable aussi, de jungle. Donc, on ramène ça sur d'immenses tamis et où il y a des espèces de lances incendiaires, là, comme les lances d'incendie, comme chez les pompiers, qui vont complètement nettoyer, pulvériser les cailloux et en faire sortir les poussières. Et de là, ne vont rester que des cailloux. Et après, ces cailloux-là, il y a une armada de petits gars qui vont porter ces cailloux-là et on va les poser sur une table. Et quand on les pose sur une table, d'un seul coup, vous avez que des cailloux frais, tout beau, tout nettoyé et tout. Une table qui fait 3 mètres sur 3. Et autour, il y a plein de gens qui sont autour, donc ce sont des spécialistes. Et moi, j'avais cette chance d'être là et de pouvoir travailler avec ces gens-là.
Oui, alors qu'est-ce que tu as vu? Parce que voilà, tu es devenu un petit peu fin connaisseur maintenant.
Je connais un peu les pierres précieuses à force d'être en Birmanie, en Népal, en Inde. Donc j'ai eu l'habitude un peu de découvrir ces pierres, de connaître leurs noms. Alors on peut voir des tourmalines, on peut voir comme j'ai dit aussi des grenats, il y avait quelques diamants. Tout ça est non poli au départ, donc quand on voit ces pierres, elles n'éclatent pas. Parce qu'après c'est dès qu'elles sont polies et tout que la pierre devient ce qu'elle est après quand elle est montée sur une bague. Et puis il y avait des rubis. Alors moi j'ai vu des rubis de plusieurs carats, des rubis au moins de 15 à 20 carats, qui étaient nets, sans aucune impureté. J'ai travaillé la matinée, on va dire. Et au bout de la matinée, vers midi, l'intendant, le superintendant de la mine, il est venu, il avait la paume de sa main était pleine. Dans la main, il avait je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de carats, uniquement de rubis. De tous les autres pierres, les saphirs étaient mis de côté. Ce qui était intéressant, quand même, le plus important au départ, c'était les rubis. Donc il y avait des rubis roses, il y en avait d'autres sang de pigeon, les plus chers, hein, bien sûr. Quand c'est non poli, bien sûr, on ne sait pas trop, mais il y avait des grenats, il y avait des saphirs qui ressemblent un peu différents quand même des saphirs de Ceylan, mais ils étaient quand même de très beaux saphirs. Le saphir de Ceylan est d'un bleu profond, alors que le saphir birman est plutôt légèrement plus clair. Mais j'aime bien, moi, ces pierres claires, si on les monte sur une monture en or, c'est extraordinaire. Les grenats. Grenat est une pierre qui vaut pas cher, qu'on trouve un peu partout, en France, dans les magasins, en Asie, on en trouve. Mais un vrai grenat, un très beau grenat, avec son rouge écarlate, oh, mais c'est une pierre extraordinaire. Alors il y avait des péridotes, il y avait des tourmalines, des topazes aussi. Et j'ai même vu un beau diamant aussi. Donc tout ça sorti de terre d'une seule et même concession. Donc vous pouvez imaginer, il est même permis de rêver à la quantité de pierres précieuses qui sont tirées chaque année du sol birman. Bah c'est fabuleux. Une fortune que finalement garde jalousement le gouvernement militaire avec l'accord tacite des sociétés chinoises de Mandalay qui gèrent les mines. Et une partie de la revente, de toute façon, une grosse partie de la vente ira sur la Chine et Hong Kong au départ. Après, ça ira sur Singapour, mais Singapour, c'est pareil. Ce sont tous des Chinois qui gèrent le commerce des pierres précieuses. Donc, Moi, quand je vois ça, et puis que connaissant bien la Birmanie, donc j'imagine que le pays il en retire tout de même des sommes considérables, qui servent très certainement à soutenir la faible économie du pays. Mais bon, c'est un secret pour personne que du temps des généraux, que ce soit le premier de Ne Win, général Ne Win, jusqu'au dernier général Tan Shwe, qui représentait un peu les juntes militaires de la Birmanie, les hauts gradés touchaient un pourcentage direct sur l'extraction de ces pierres précieuses. Somme colossale, qui au final dorment pour longtemps encore dans les coffres des banques de Singapour. Puisque je le sais, ça, j'en ai beaucoup parlé en Birmanie, les généraux birmans mettent tout leur argent dans les coffres de Singapour. Alors si on savait ce qu'il y a, en priorité. Après, le reste, on ne sait pas. Alors bien sûr, je n'aurais pas le droit d'acheter directement des rubis sur place là, mais en plus, ils n'étaient pas polis. Donc, à la limite, ce n'était pas très intéressant. Puis ils ne veulent pas les vendre, parce qu'après, les sommes qu'ils vont en retirer à la vente, que ce soit en Thaïlande aussi. Il m'est arrivé d'acheter des rubis, grâce à M. Tin Nong, qui a un de ses fils qui avait une bijouterie. Mais ce qui était marrant en Birmanie, c'est qu'on ne va pas à la bijouterie acheter des bijoux. C'est la famille qui vient avec des valises pleines. Mais de centaines de pierres, pas une de fausse. Donc, je préférais travailler avec des gens comme ça. Je me dis, tiens, je vais quand même acheter deux, trois pierres pour ramener la famille. Et puis, moi, si j'en trouve une belle pour moi, ben, je serais content. Mais jamais M. Tin Nong m'a vendu du faux. Hein, j'ai fait vérifier après, que ce soit en France ou même en Asie, on m'a tout dit que c'était des rubis ou des saphirs qui étaient vraiment qui étaient des bons, de bonnes pierres. Et alors, on rentre dans la chambre, à la vue de tout le monde, finalement. Il y a toutes ces pierres qui sont étalées comme ça. Parce que pour les Birmans, c'est normal. Les pierres précieuses, ça fait partie de la vie au quotidien. Donc voilà, on peut acheter. Moi, dans les années 80, à des tarifs qui. Moi, j'ai acheté, je me souviens, un bracelet où il y avait à peu près 36 saphirs d'un bleu extraordinaire pour $50. Je sais aujourd'hui que ben, Agung, ma femme, donc, est la détentrice de ce beau bracelet. Il en vaut à peu près 5 à 6 000 $ maintenant. Donc voilà, les Birmans eux-mêmes, donc pour parler aussi des pierres, souvent le peuple birman qui avait des difficultés à boucler les fins de mois, comme on dit, parce qu'ils n'avaient rien, donc du temps des militaires, c'était tellement compliqué de vivre en Birmanie, surtout dans les années 80. Les femmes qui avaient des tas de rubis, des tas de saphirs, des tas de jade, des tas, elles vendaient, mais pour rien, pour $20, vous pouviez acheter toutes les pierres que vous vouliez. L'or était, c'est un or à 24 carats, donc l'or n'était pas intéressant, mais ça fait rien, déjà c'était bien monté. Après, c'était facile de changer la monture en or et de garder les vraies pierres. Donc, je dois reconnaître que j'ai profité pendant quelques années de cette chance de pouvoir acheter des pierres précieuses pour trois fois rien, on va le dire. Même à les échanger contre une bouteille de whisky que j'achetais à Bangkok, $12. En plus, ils aimaient bien le Johnny Walker Red Royal Black Label qui valait plus cher celui-là. Alors, quand j'arrive avec une Black Label, je pouvais avoir deux ou trois pierres. Alors quand on avait du Red Label, c'était une pierre. Et puis autrement, voilà, il y avait le GNB aussi. C'était les grandes années, ça. Donc moi, je vais pas m'enorgueillir de dire, tiens, j'ai profité du système. Et puis j'ai profité surtout de la misère des autres. Mais bon, ils étaient tellement contents. Parce qu'ils disaient, de toute façon, nous, aujourd'hui, on n'en a pas, mais on en aura la prochaine fois des rubis. Ils en rachèteront tout de suite. Les femmes, c'est comme ça. J'ai tellement fait profiter... aider le peuple birman dans les années 70-80, que non, j'avais pas, c'était pas une histoire de scrupules, mais c'était, moi j'étais content des pierres, parce que j'aime les pierres précieuses, et en même temps j'étais content de voir que des gens, avec l'argent que j'allais leur donner, ou même la bouteille de whisky qu'ils allaient revendre, c'était même pas pour la boire, ils allaient pouvoir vivre pendant un mois, et plus, un mois, deux mois, donc voilà quoi.
Oui, et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est quand même le sujet des faux, puisque j'imagine qu'il y a quand même un énorme marché parallèle, non?
Ah ben ça, les faux, tu me poses la question de savoir le marché du faux. Ben bien sûr qu'il y en a plein. Ils n'ont pas attendu de voir des étrangers pour fabriquer du faux. Mais en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Où on vendait le plus de faux, c'était pas trop à Mandalay, c'était à Pagan. Pourquoi? Parce que dans les années 70 et 80, les touristes, il y a des endroits où ils pouvaient vraiment aller, c'était juste à Pagan, et des fois au Lakinlay, ou à Mandalay aussi. Donc c'était dans ces endroits touristiques qu'on pouvait trouver des faux. Et j'ai eu une fois la surprise de voir que un rubis, que quelqu'un voulait me vendre, en plus c'était Zarni, c'était dans la lodge où je dormais toujours à Pagan, Zarni Guesthouse. Bon, le gars il était sympa, mais j'ai vu tout de suite que son saphir était faux, parce qu'il était trop plat, trop quelconque. Et j'ai appris, donc j'ai eu la surprise de savoir que ces rubis, ces faux rubis, tu sais où ils sont fabriqués, Romain? À Lyon. Alors ça, j'ai été scotché. Moi qui suis de l'Isère et qui ai vécu longtemps à Lyon, de savoir que les faux rubis sont fabriqués dans ma ville, ça m'a fait bizarre, quoi. Voilà. Donc on trouve des faux rubis. Alors c'est certain que les gens qui vendaient des faux rubis, je vais dire quand même que c'était pas vraiment gênant parce qu'ils nous les vendaient 3-4 dollars. Donc bon, même si à l'époque le dollar, 1 dollar, c'était plus important qu'aujourd'hui. Je veux dire, on pouvait faire beaucoup plus de choses avec 1 dollar qu'aujourd'hui. Malgré tout, si on s'était fait avoir d'avoir acheté un faux rubis pour 4 dollars, bon, c'était pas la fin du monde, quoi. Donc finalement, donnant, ça passait. Et le birman, lui, ça lui permettait de casser la croûte. Voilà. Bon, puis finalement, je n'aurais malheureusement pas le droit d'aller sur la Chio, alors que c'est quelque chose... À cette époque-là, donc quand je suis allé dans la mine de rubis, la première fois dans la mine de rubis de Mogok, j'ai pas eu l'occasion d'aller à la Chio. Mais bon, ce que m'a raconté le directeur de l'hôtel où j'étais, c'était fabuleux, parce que... D'abord, c'est trop dangereux d'aller là-bas pour être en contact avec les brigands, des policiers véreux ou une fusillade, comme j'ai expliqué, parce qu'avec les Wa, ce sont les derniers représentants des minorités ethniques birmanes, hein, qui gèrent et tirent leur profit de la production d'opium et près de la Chine et du Laos, donc ils revendent directement tout à la Chine. Donc le patron du Mogok Hotel, je me rappelle bien de son nom, Monsieur Luin, il s'appelait. Donc alias Monsieur Wang. Donc ils ont toujours des alias. En Indonésie, c'est un peu comme ça, ils sont tous alias. Ça me fait marrer. Moi, il faudrait que je trouve aussi un alias pour moi, ça serait sympa. Donc c'est un Chinois, bien sûr. Il me dit le matin, avant mon retour vers Mandalay, que la route de la Chio, pour le moment, elle est fermée, donc faut pas y aller, c'est dangereux. Mais c'est une trafficking road. Donc ne peuvent y aller que les locaux. Les étrangers sont interdits. Et son frère, il travaille dans le transport depuis plus de 15 ans et il ne possède qu'un camion. Et il me dit, mais ce qui n'est absolument pas normal parce qu'il est trop honnête. Donc là, je le regarde, je me dis, tiens, pourquoi il me dit ça? Parce qu'il me dit, si mon frère s'engageait dans d'autres activités comme le transport de marchandises volées, comme le transport de narcotiques, comme le transport de pierres précieuses, donc à côté de Mogok, bien sûr, et le transport humain, sous-entendu, mais il me l'a pas dit, mais bon, moi, c'est moi qui en ai déduit, sous-entendu le trafic des prostituées birmanes vers la Chine, parce que de toute façon, moi, je sais très bien que depuis la nuit des temps, on va dire, les prostituées, les birmanes sont envoyées en Chine, sont envoyées au Laos, sont envoyées surtout en Thaïlande aussi, pour faire la prostitution, que ce soit à Chiang Mai, après, puis dans certaines villes chinoises, et que au retour, il y en a beaucoup qui n'en reviennent pas, et que... Au retour, quand elles reviennent, et j'ai su ça à Tachilek, moi, quand j'étais donc près de la frontière thaïlandaise, à Tachilek, quand il y a les prostituées qui reviennent, qui veulent rentrer chez elles, souvent, elles disparaissent. Parce qu'elles reviennent, elles peuvent avoir le sida, et que les généraux birmans n'ont pas envie que les gens ramènent le sida dans leur pays, donc ils les exécutent derrière les maisons. Ça, c'est une chose que j'ai entendue qui est horrible, mais je crains que ça soit la réalité. Alors, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Ça, je veux pas l'affirmer, d'accord. Mais bon, la prostitution est quelque chose qui, dans ces pays-là, autour du Triangle d'Or, existe beaucoup et toujours à l'heure actuelle. Voilà. Ce transport humain, donc, si son frère, donc, s'occupait de tous ces trafics, il serait beaucoup plus riche. Il aurait au moins une dizaine de camions, il aurait plein de 4x4 flambant neuf. Et voilà. Donc, il était pauvre, il avait qu'un camion, parce qu'il voulait pas s'occuper de ce trafic. Et ce qui est extraordinaire aussi, moi, je finissais mon petit déjeuner, je me souviens, au Mogok Hotel. Monsieur Wang, il me dit, en plus, tous ces camionneurs qui traversent, ils ont tous des carnets spéciaux. Donc, quand ils arrivent à la frontière, sur le carnet, donc, les douaniers, birmans ou les douaniers chinois de l'autre côté, donc, ils leur mettent un tampon. Et quand on regarde tous les tampons, il y en a un, le tampon, c'est écrit dessus, narcotique. Clac. Donc ça veut dire que le camion qui va traverser la frontière transporte des narcotiques. Alors l'autre, il lui met un tampon, donc vas-y, tu peux passer. Un autre, c'est de l'immigration, parce que peut-être qu'il est honnête, il transporte du ciment ou j'en sais rien quoi. L'autre, foresterie, donc ça veut dire que toutes les grumes de bois de teck, car on sait que le teck birman est le meilleur au monde, passent de l'autre côté. Tout ça, tac, foresterie, allez hop, ça passe. Donc un trafic qui est immense, hein, ça va du teck, donc comme je viens de dire, aux pierres précieuses, la prostitution, la drogue, etc. Puis en plus la police, l'armée, là, les passeurs, parce qu'il y a beaucoup de passeurs de tous ordres, ils en retirent des bénéfices considérables. Voilà, c'est la chiot. Ce n'est pas que la chiot. Je pense qu'on va reparler dans d'autres émissions sur la Birmanie, parce que, moi j'y tiens, et puis j'ai vu tellement de choses, et j'ai fait tellement de choses en Birmanie, que j'ai encore plein de trucs à te dire. Notamment, après, on va aller, je pense, dans le Grand Nord, birman, et puis on ira parler du peuple Naga aussi. Mais voilà, donc, j'espère que cette émission sur les pierres précieuses vous aura appris certaines petites choses. Maintenant, pour moi, c'est... La Birmanie est vraiment l'équivalent de, c'est la terre des rubis, quoi. D'ailleurs, vous pouvez lire Terre d'or de Norman Lewis, qui a écrit un bouquin extraordinaire, justement, où il a passé pas mal de temps à La Chiot, et c'était à l'époque donc du colonialisme anglais, mais ça vaut la peine de lire ses livres, justement, qui racontent un petit peu toutes ces épopées birmanes, quoi. Voilà. Mais je peux vous dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui encore, la Birmanie a beaucoup changé. Donc le gouvernement militaire, il est toujours présent, quoi qu'il en soit. Les militaires ont toujours pignon sur rue. Mais le nouveau gouvernement dirigé par Aung San Suu Kyi, elle n'a pas le droit de devenir présidente parce qu'elle a été mariée. Et puis elle a des enfants qui sont mélangés, donc birman-britannique. Mais malgré tout, bon, c'est elle maintenant qui est quand même qui dirige un peu la vie du pays. Mais rien n'a beaucoup changé en Birmanie. Ça reste toujours des consorts, des grands centres, que ce soit Pagan, Mandalay, le Lac Inley, le Rocher d'Or, bon, on y reviendra plus tard, et Rangoon. Bon, si vous partez ailleurs, c'est toujours une grande aventure.
Oui, alors aujourd'hui, si on veut suivre cette aventure, suivre tes traces, tu disais Mogok, aller à Mogok, c'est assez facile. Pakhant est fermé en ce moment, donc il faut bien se renseigner. Mais bon, comment on s'y prend pour aller dans ces lieux?
C'est plus facile d'aller à Mogok qu'à Pakhant, parce que d'ailleurs Mogok se trouve quand même pas très loin, une petite demi-journée de route de Mandalay, donc c'est quand même plus facile. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien se renseigner avec le circuit touristique que l'on va prendre avec une agence de voyage, que ce soit en Europe ou que ce soit en Birmanie même, parce que parfois la route est ouverte et puis 15 jours après elle peut très bien être fermée. Donc il faut être indulgent avec les agences de voyage birmanes. Si elles vous vendent un voyage à Mogok et que vous pouvez y aller, y a pas de problème, donc vous verrez ce que j'ai vu. Hein. Alors que si d'un seul coup la politique ne va pas dans le bon sens et qu'il y a des échauffourées ou je sais pas, des manifestations ou quelque chose, immédiatement les mines sont fermées. Donc il faudra en vouloir à personne. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être mieux découvrir Mandalay et aller peut-être dans la région de Mogok, mais pas sur les mines. Voilà, c'est ça la Birmanie.
Ouais, donc si on est sûr de pouvoir aller à Bagan, au Lac Inley et à Mandalay, ça reste quand même une chance de pouvoir aller à Mogok. Hein.
Voilà, ça reste aléatoire complètement d'aller dans les mines, quelles qu'elles soient, de Birmanie. Personnellement, quand on fait un voyage en Birmanie, bien découvrir d'abord la Birmanie traditionnelle, hein, le pays Bamar, comme on dit, donc avec le site de Pagan, avec Mandalay, avec le Lac Inley, et puis certains à côté. Mais dès que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on sort de ce territoire Bamar, c'est quand même assez compliqué de voyager encore en Birmanie.
Oui, mais on va le continuer ce voyage en Birmanie et on va découvrir d'autres endroits, puisqu'on a déjà prévu de parler ensemble dans un futur épisode du Rocher d'Or, qui est aussi un lieu qui est très cher à tes yeux. Et bien en tout cas, merci encore beaucoup Thierry, et puis à très bientôt.
Merci Romain, à la prochaine.
Nous voilà au bout de cet épisode 43 en compagnie de Thierry Robinet sur les mines de jade et de rubis du nord de la Birmanie. Vous pouvez voir que sur les routes de l'Asie vous emmène un peu plus à chaque écoute faire de très belles aventures. J'espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver les notes de l'épisode avec les noms évoqués par Thierry sur la page sur le site web surlesroutesdelasie.com/43. Je vous invite comme à chaque fois à laisser des commentaires, que ce soit sur ce même site web, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis la page iTunes du podcast, où je reçois régulièrement des commentaires qui continuent à me faire énormément plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de citer Nitroji, qui nous écoute depuis les États-Unis et qui dit « Podcast de qualité à écouter absolument. Difficile d'écouter un épisode jusqu'au bout sans avoir envie de courir acheter un billet d'avion. Un vrai bonheur pour les personnes restées en France et ayant besoin d'évasion. » Fin du commentaire, et bien écoute, merci beaucoup à toi. J'espère que cet épisode 43 t'aura donné envie d'acheter un billet d'avion pour la Birmanie. En tout cas, je te le conseille fortement, puisqu'on a déjà donné 4 idées de lieux à visiter. Et vous allez le voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode qui sera lui aussi une surprise, mais une grosse surprise, vous allez le voir. L'épisode sera publié avant Noël et ce sera un petit peu le cadeau de Noël de Sur les routes de l'Asie. Voilà. D'ici là, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.